Racine de Moins 1, une émission de critique des sciences, des technologies et de la société industrielle, présentée par Radio Zinzine. Bonjour, je vous propose aujourd'hui d'écouter une conférence donnée par la sociologue québécoise Céline Lafontaine, conférence qui s'intitule « Les enjeux de la bioéconomie du corps humain » qu'elle a donnée en mai 2017. Céline Lafontaine nous propose d'analyser le phénomène du transhumanisme en partant de la notion de bioéconomie qui voit dans le vivant en général et dans le corps humain en particulier une matière première qu'il est possible de recomposer quasiment à volonté. Céline Lafontaine qui a publié en 2014 « Le corps marché, la marchandisation de la vie humaine à l'ère de la bioéconomie ». C'est un livre paru aux éditions du Seuil en 2014, oui. Donc tout de suite la conférence de Céline Lafontaine et ensuite j'ajouterai quelques petits commentaires sur ce rapport entre la bioéconomie et le transhumanisme.
La question du transhumanisme, telle qu'elle se pose actuellement, qui est l'objet de plusieurs débats, de plusieurs colloques, des généalogies, il y en a plusieurs. J'ai moi-même au moins dirigé 3 thèses depuis 15 ans. J'ai travaillé beaucoup, j'ai fait une thèse sur la cybernétique. Donc l'épistémologie des sciences est vraiment fondamentale pour comprendre les enjeux qui sont derrière. Par contre, ce que je constate actuellement, c'est que d'ailleurs c'est un phénomène assez français, hein? L'intérêt pour le transhumanisme, c'est un phénomène assez français et qui occulte en ce moment des enjeux fondamentaux et qui sont justement, à mon sens, rendus invisibles par une espèce de... Le transhumanisme, c'est l'autre. C'est soit les grands capitalistes américains, c'est toutes ces tendances. Évidemment, la contre-culture est vraiment fondamentale parce que la racine, c'est les hackers, le biohacking, la culture informatique. Mais ce qui moi, m'apparaît fondamental, c'est de comprendre que le transhumanisme, c'est, parmi les hypothèses, celle que je défends et qui, à mon sens, me paraît de plus en plus importante, c'est que le transhumanisme, c'est un symptôme. C'est la pointe d'un iceberg. Ce qui intéresse une sociologue, c'est d'essayer de comprendre comment, justement, ce discours assez extrémiste, qui se réclame pour une part de l'humanisme, on pourra en revenir, technophile, le cœur c'est la technoscience, comment un discours comme ça peut avoir prise, sur certaines institutions, c'est que finalement, quand on regarde derrière, elle s'inscrit, c'est le symptôme d'un processus technoscientifique et techno-économique beaucoup plus vaste, et ça me fait rire parce qu'en 2014, quand j'ai publié Le corps marché, j'ai participé à de nombreuses émissions de radio, de nombreux débats, et puis en France, et on me disait, mais la France n'est pas dans la bioéconomie. Je peux vous dire que je sors d'un mois dans un laboratoire, dans des start-up de bio-impression. La France est presque numéro 1 dans la bio-impression au niveau mondial. La course à l'innovation, on y est à fond la caisse. La médecine translationnelle, c'est pratiquement une invention française. Et on est dans une logique beaucoup plus importante. Et aussi, j'ose pas dire le transhumanisme ordinaire, parce qu'on va voir à quel point ça engage plus profondément notre citoyenneté et même notre humanité, le processus qui est en cours. Alors, pour essayer de comprendre le contexte, à mon sens, qui donne prise au transhumanisme, qui est un volet radical d'une culture technoscientifique, il faut comprendre 2 processus. Ici, c'est pour ceux qui se demandent c'est quoi, c'est la page d'ouverture sur le site Internet de l'Humanité Plus, qui est l'Association internationale du transhumanisme. Et donc, ce que je vais essayer de faire ce matin, c'est justement d'essayer de comprendre quel est le monde dans lequel s'inscrit le transhumanisme, qui est effectivement un mouvement occidental, dont les racines sont nord-américaines, et de comprendre le processus sociétal dans lequel nous sommes tous. Et là, ça peut plus être juste l'autre. Ça peut plus être juste les savants un peu fous américains ou les espèces d'hackers, mais ça concerne tous et chacun très profondément dans ce qu'on est en train de développer comme rapport au monde. Et donc, le contexte, j'essaie de situer hein, sociologiquement les processus. La première chose que je vais essayer de comprendre, c'est le contexte économique, donc qui est celui de la bioéconomie, dans lequel on est tous plongés, et comme je le disais, la France de plus en plus, et puis vous venez d'élire un président qui, je peux vous l'annoncer, ira dans le sens de ses politiques de l'innovation scientifique à fond. La caisse, comme on dit au Québec. Donc le processus économique. Bon, un processus économique, ce que je vais vous expliquer, ça n'a pas de prise si ça s'inscrit pas dans le social. Hein. Tout ça, on les découpe intellectuellement, mais la réalité est beaucoup plus imprégnée. Et donc, pour comprendre vraiment les enjeux profonds de l'imprégnation du transhumanisme dans nos sociétés, ou pourquoi le transhumanisme a une voix dans nos sociétés, je vais ensuite aborder la question de la biosouveraineté. Donc, pour essayer un peu de comprendre le monde dans lequel on vit, en 2009, hein, l'OCDE, mais suivi par les États-Unis en 2010, par l'Union européenne, mettent de l'avant la bioéconomie comme modèle de développement économique. C'est finalement un modèle de développement économique qui ne fait qu'affirmer les tendances qui sont là depuis les années 80, qui sont le modèle de l'innovation. La bioéconomie, par contre, est ce qui est fascinant, parce que c'est justement, on parle des mots, l'origine du terme bioéconomique, c'est Georges Kouroghan, qui est un économiste, le premier à avoir parlé de décroissance. Et donc, on est au tournant des années, au début des années 70, on est à la prise de conscience de l'épuisement de l'énergie fossile. Georges Kouroghan va penser une économie qui tient compte justement des limites du vivant, donc des limites de la planète. Il va se dire on est sur un modèle de thermodynamique avec une linéarité dans le temps, alors que le vivant fonctionne sur un modèle cyclique. Et donc, il va essayer de repenser l'économie en tenant compte des limites hein, du vivant. Le même terme, bioéconomie, va être repris, paradoxalement, par les autorités américaines au tournant des années 70, au point de devenir le programme de l'OCDE en 2009. Et pourquoi? Parce que, justement, le Club de Rome, au début des années 70, le Club de Rome, c'est le premier à avoir fait une annonce pour dire qu'on s'en allait vers l'épuisement de l'énergie fossile. Ensuite, au début des années 70, l'abandon de l'étal en or et la crise du pétrole va amener les autorités américaines à s'inquiéter hein, de ce fameux modèle de la croissance. Comment repenser la croissance quand on est face à notre énergie qui, elle, nous promet une décroissance accélérée. Et donc, c'est dans ce cadre-là qu'on va penser la bioéconomie. Il faut penser la bioéconomie comme les deux modèles. Hein. D'une part, on va investir dans le numérique, on va investir dans le développement des technologies d'information et d'autre part dans les biotechnologies à partir de la biologie moléculaire qui va être le modèle théorique de base qui va permettre justement l'idée que à partir de maintenant, le vivant est une ressource renouvelable, permet un développement durable et le meilleur modèle de la bioéconomie de ces années-là, c'est les OGM. Hein, c'est vraiment l'idée qu'on va transformer le vivant et que c'est le vivant lui-même qui va devenir la source de la plus-value. Donc, on va pouvoir permettre la croissance en transformant le vivant. Hein, on voit tout de suite, hein, ça nous mène à ce qu'on est dans ce qu'on est aujourd'hui, la biologie de synthèse, la bioimpression, la médecine personnalisée, la génomique. Donc, c'est à partir de cette époque-là, cette idée que le vivant devient une matière première. Moi, ce qui m'intéresse, c'est au niveau du vivant humain, mais évidemment, les processus industriels et l'agriculture, ils sont au cœur de ce modèle de la bioéconomie. Sa caractéristique de la bioéconomie, c'est justement, comme je l'ai dit, abandon de l'étal en or, entrée dans l'économie, la financiarisation de l'économie qui est rendue possible par les technologies d'information, par le modèle cybernétique. Et donc, cette économie va reposer sur un processus de spéculation, ce qu'on va appeler aussi l'économie de la promesse, je vais y revenir. Et donc, cette bioéconomie, c'est l'idée hein, de toujours aller en avant vers ces modèles d'innovation, indépendamment de leur réussite. Hein. Ça fait 30 ans qu'on nous promet de la thérapie génique. Le professeur Testard le disait hier, on n'y est pas encore, puis on continue quand même d'investir et on va continuer d'investir. Donc, la bioéconomie transforme aussi, évidemment, l'ensemble des processus vivants et l'ensemble du patrimoine biologique, hein, que ce soit la génétique de toutes les espèces, y compris l'humain. Pour ce qui est du corps humain, ben, les embryons, les gamètes, les cellules souches, les tissus, devienne une matière première fondamentale pour le développement des nouvelles technologies et des nouveaux procédés médicaux. Donc, deux lois. Là, on est vraiment plus dans la structure du monde dans lequel on est. Pour ceux qui connaissent pas l'histoire des processus d'innovation qui sont pourtant au cœur de nos politiques, deux lois. Hein, le Beadle Act en 1980, c'est les époques Reagan, c'est le début de ce qu'on appelle les politiques non libérales. La première loi qui est au cœur de la transformation profonde des universités et du rapport à la science, qui est celle qui va autoriser le Beadle Act, qui fait en sorte que les recherches faites à partir de fonds publics peuvent être brevetables. L'université devient le moteur de l'économie. C'est évidemment une loi américaine, très très tôt adoptée par le Canada et ensuite par l'Europe, et c'est le cœur de votre politique scientifique ici en Europe, comme partout ailleurs en Occident. Deuxième loi, en 1980 aussi, donc c'est les politiques libérales, qui va, en 1980, la Cour suprême des États-Unis, qui va permettre le premier brevetage d'un organisme vivant, et parce que l'histoire est toujours dans sa propre logique, bien évidemment, la première bactérie qu'on va breveter, c'est une bactérie qui sert à absorber le pétrole dans le cas de catastrophe. Donc, on est dans cette quête de justement revenir sur le fait que on est dans une logique environnementale ici. On commence à prendre conscience des limites de la planète et on brevette le vivant pour répondre à nos problèmes. Donc, ça, c'est vraiment la structure économique dans laquelle va se développer les sciences à partir des années 80 jusqu'à aujourd'hui. Donc, une économie que plusieurs... ici, c'est un des plus importants sociologues sur ces questions qui vont parler de biocapital. Et donc, le biocapital, c'est vraiment cette course à l'innovation, au brevetage, à la recherche de capital à risque. C'est le modèle de la start-up. Et je peux vous dire, après avoir passé un mois dans une start-up française en mars, la France a non seulement adopté le modèle américain, mais là, il y a une espèce de... C'est presque caricatural. On brevette tout et n'importe quoi. Bientôt, les chercheurs vont breveter leur numéro de téléphone. C'est vraiment... En France, il y a la course au brevetage à même les fonds publics, là. Hein, c'est des fonds publics qui nous amènent à faire du brevetage. Les retombées de tout ça, ce sera très, très, très peu. Même en termes économiques. On est vraiment dans une logique de surenchère, mais c'est pas là-dessus que je veux m'attarder. Donc, la particularité de cette forme d'économie de capitalisme, c'est justement de pouvoir attirer des fonds, hein, d'aller attirer de l'argent. Donc, c'est le modèle du hype. Il y a eu, au début des années 2000, les nanotechnologies, ensuite, donc, qui vont transformer le monde. Ensuite, médecine personnalisée. On est beaucoup dans la médecine personnalisée. Nanomédecine, médecine régénératrice, bioimpression. En ce moment, la France est dans la course pour la bioimpression. Et donc, chacune de ces hypes-là, c'est vraiment, c'est une économie de la promesse. Et, bien évidemment, il s'agit soit de pouvoir reprogrammer le corps humain, trouver des traitements qui vont avoir pas d'effets secondaires. Évidemment, la médecine régénératrice, c'est toute la médecine à partir des cellules souches. Donc, l'idée même d'immortalité, elle est comprise dans l'idée de régénération. Donc, vous voyez bien que dans ce que je vous décris là, c'est la normalité de la recherche scientifique. C'est impossible d'obtenir ou pratiquement impossible d'obtenir aujourd'hui des fonds publics si on ne s'inscrit pas dans cette économie de l'innovation et de la promesse. Et d'ailleurs, si vous allez parler aux chercheurs dans les labos, mais personne, c'est très très rare, vont se réclamer du transhumanisme. Après avoir fait au moins 100 entretiens dans les 6 ou 5 dernières années avec des chercheurs dans les hautes technologies, j'en ai rencontré 2 qui se réclamaient du transhumanisme. Tous les autres, hein, qu'ils soient en bioimpression, en médecine régénératrice, qui travaillent sur l'embryon humain, mais ils ne se définissent pas comme transhumanistes. Ils se définissent justement dans une logique d'amélioration de la santé, dans une logique de santé. Et même que, c'est toujours le transhumanisme, ils se défendent de le faire, ils sont tous contre. Donc, c'est pour ça que si on focalise sur cette notion de transhumanisme, on comprend pas ce qui se passe. Parce que vous allez avoir très, très peu de scientifiques qui vont vous dire qu'ils sont dans le transhumanisme. Ici, par contre, justement, dans toute cette économie, il y a évidemment le grand capital. Ici, c'est Google, c'est Calico, c'est toutes les thérapies anti-âge. Et ça, c'est la Singularity Institute. Ça s'inscrit dans ce capitalisme-là. Ils ont énormément de fonds parce que c'est les grandes industries, mais tout le reste s'inscrit dans la même logique, finalement. Donc, pour comprendre, là, j'ai essayé de vous dépeindre de façon très, 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 très rapide la question de la bioéconomie. On ne comprend pas ce qui est en jeu et ce qui est à l'œuvre si on ne se remet pas dans le fait que la bioéconomie a profondément transformé notre rapport au corps, à la santé et notre propre citoyenneté. Donc, il y a un concept développé par beaucoup de sociologues anglo-saxons qui s'appelle bio-citoyenneté. Et pour comprendre, il faut se remettre à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Et là, c'est très important parce que je vais essayer de faire vite, mais c'est vraiment fondamental ici, la guerre. Hein, parce que on va voir aujourd'hui ce que je vais vous dire, ça sera pas c'est même pas par provocation, c'est ce qui est à l'œuvre. On est dans un retournement complet de Nuremberg. Hein, donc on est dans un retournement complet de l'héritage de l'après Deuxième Guerre mondiale. Et donc de cet héritage-là, hein, Foucault avait bien vu que après la Deuxième Guerre mondiale, hein, la défaite de l'Occident, les ravages, le pessimisme, hein, c'est l'époque de la cybernétique d'ailleurs, c'est l'optimisme techno-scientifique, mais dans un pessimisme profond. Si on regarde les cybernéticiens de l'époque, c'est la bombe atomique, c'est tout ça, il y a un pessimisme politique profond, et c'est par la machine qu'on va pouvoir reconstruire le monde, parce qu'on peut plus se fier à la raison humaine qui nous a emmenés à l'Holocauste. Hein. C'est vraiment le contexte culturel de l'époque. Foucault, qui a été un des premiers à voir justement l'importance de la médecine et du bio, ce qu'il appelle le biopouvoir dans le développement des sociétés modernes, montrait bien que à partir de 46, mais en réalité 148, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, va apporter une réponse à l'horreur de la guerre, à l'Holocauste, en donnant un nouveau droit qui va être le droit qui va mobiliser le plus les populations à partir des années 50, hein, sur lequel va s'ériger les États-providence dans lesquels on vit, mais qu'on est en train de déconstruire, c'est-à-dire les systèmes de santé publique. Hein, la santé va devenir un droit, et la définition de la santé, si on la lit après la Deuxième Guerre mondiale, c'est une affirmation de l'humain, hein, de la puissance de vie. La santé est un état complet de bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. Si on se place après la Deuxième Guerre mondiale, c'est une affirmation de la vie. Si on se place à l'époque contemporaine, regardez la définition, un état complet de bien-être physique, mental et social, il y a personne qui répond à cette définition, et c'est justement, à la limite, c'est le transhumanisme qui peut y répondre. Hein, vous voyez bien que c'est une fuite à l'avant, mais qui, comme toute l'histoire humaine, hein, qui est un paradoxe, puisque finalement, ce qui servait à fonder la citoyenneté après la Deuxième Guerre mondiale est devenu aujourd'hui un enjeu qui a été complètement retourné. Donc, après la Deuxième Guerre mondiale, comme je l'ai dit, le système politique s'est centré sur la santé publique. Ça a été le cas pour la France, la Grande-Bretagne, le Canada, même les États-Unis qui sont quand même privatisés. La question des mobilisations sociales se fait beaucoup à travers la santé. Et donc, à partir des années 80, donc avec le développement de la cybernétique, mais aussi de la biologie moléculaire, on voit apparaître des mouvements culturels qu'on appelle la molécularisation de la culture. De plus en plus, les questions de génétique vont transformer les identités. On va voir de plus en plus le corps au niveau moléculaire. On va commencer à intervenir sur le corps. C'est le début des technologies de reproduction. Moi, je crois que les technologies de reproduction, ça a été vraiment le début de toute cette volonté de remodelage du corps humain, parce qu'on est ni dans le pathologique, hein. On est vraiment dans une technologie d'amélioration. Et donc, pour essayer de comprendre le mouvement actuel, puisque j'ai pas beaucoup de temps, je vais me servir d'un concept qui m'apparaît fondamental, sachant qu'un concept, c'est toujours partiel, une vision partielle de la réalité, mais qui, dans toute la littérature actuelle en sciences sociales, m'apparaît correspondre le plus à tous ces enjeux-là. Donc, donne un portrait global du monde dans lequel on est. C'est le concept de biomédicalisation, qui va de pair avec bio-citoyenneté. De plus en plus, les mouvements sociaux, que ce soit sur l'euthanasie, que ce soit pour l'accès à des médicaments, que ce soit pour les technologies de reproduction, le mariage pour tous, ce sont des mouvements sociaux qui sont portés par des définitions identitaires liées à la condition biologique. Donc, le processus de biomédicalisation permet d'expliquer des grands enjeux sociétaux actuels. Le premier, hein, donc il y a trois processus qui permettent de comprendre ce qu'est la biomédicalisation. Le premier, ça correspond à ce que je vous ai dit tout à l'heure. Hein, c'est vraiment la bioéconomie, c'est-à-dire l'entrée des politiques d'innovation, la privatisation des systèmes de santé, le brevetage de la recherche en santé. Donc, toute cette suprastructure économique. Donc, je ne vais pas m'y arrêter trop longtemps. Le deuxième processus, c'est celui qui correspond justement à une redéfinition de la santé qui va être de plus en plus pensée en termes de risque. À l'époque où on se parle, la santé, elle est pensée en termes de risque dont le risque zéro n'existe pas. Donc, on est dans un processus de constant de surveillance de soi, d'autodiagnostic, de redéfinition de soi à partir de son génome. Hein. De plus en plus, même, il y a des compagnies américaines où on peut demander la carte de son génome pour pouvoir prédire sa santé. Et donc, on est vraiment dans une logique de contrôle, d'une santé sur surveillance. Vous voyez à quoi ça fait référence. C'est des mouvements sociaux assez généralisés. Troisième processus, c'est vraiment l'entrée massive des technologies, dont c'est des innovations biomédicales dans le domaine de la santé publique. De plus en plus, on a des biobanques. Hein, j'ai pas le temps de vous parler de ça, mais c'est vraiment fondamental. La France est en train de construire une méga biobanque de cellules souches IPS. C'est assez incroyable. Et donc, c'est la médecine personnalisée, la nanomédecine, les outils de diagnostic de plus en plus performants, l'imagerie médicale qui est de plus en plus performante, de plus en plus coûteuse et qui amène aussi un surdiagnostic. Il y a un problème actuellement de surdiagnostic. Donc, on traite des maladies qu'on détecte très, très tôt. Donc, c'est tout un processus qui relève d'une logique sociétale beaucoup plus large. Autre processus qui correspond à ce qu'on appelle la biomédicalisation, c'est le fait justement d'une transformation des citoyens en bio-citoyens. De plus en plus, les gens vont revendiquer, je vais y revenir parce que c'est vraiment fondamental, le droit à certains médicaments. Les médecins, quand on parle avec les médecins, le vivent constamment parce que ils sont maintenant en compétition avec Internet. Ils sont en compétition avec des réseaux de citoyens et ils vont aller devant le médecin et souvent on demande au médecin telle molécule, tel traitement, pourquoi je peux pas avoir accès. L'autorité du médecin actuellement tend à diminuer face à toute l'information disponible sur Internet. Et ça change le rapport du patient qui devient de plus en plus un consommateur averti, et je vais l'expliquer tout à l'heure aussi, dans une logique d'investissement sur sa santé qui va revendiquer d'avoir accès à certains médicaments. Et si vous parlez à des médecins, vous allez voir qu'ils sont confrontés à ça. Hein, le patient qui est consulté sur Internet, Dr. Ussimo, ou toutes ces, et qui va arriver, qui s'auto-diagnostique, et qui va arriver avec son auto-diagnostic, mais aussi avec des études scientifiques plus ou moins bien digérées, mais qui vont réclamer justement, ah, il y a telle étude au Japon, il y a tel médicament disponible, pourquoi je peux pas avoir accès à ce médicament? Donc, c'est un processus sociétal qui est en train de transformer fondamentalement le rapport à la santé. Le cinquième processus touche plus directement à la question ici du transhumanisme, puisque c'est le fait justement que la santé, je dirais plus généralement la question du corps et de l'identité, est au cœur des transformations sociétales actuelles. De plus en plus, l'identité passe par une redéfinition biologique. On n'a qu'à penser, évidemment, à tout ce qui concerne la sexualité, les revendications pour le droit à la reconnaissance de toutes sortes d'identités, de la reconnaissance légale, par exemple, ça a commencé avec les couples gays, qui est une reconnaissance citoyenne, mais qui va donner accès à, par exemple, la volonté justement d'avoir accès aux technologies de procréation dans un contexte de bio-citoyenneté. Évidemment, le plus important pour moi, en tout cas, ou celle, et tout le mouvement féministe, hein, parce que le mouvement féministe repose sur l'accès à la pilule contraceptive, donc sur un médicament. Et donc, je pourrais dire que la bio-citoyenneté, ça a été d'abord la question des femmes. Et ensuite, évidemment, la question de la procréation, la question du vieillissement. De plus en plus, il y a des mouvements en faveur, évidemment, il y a une obsession d'essayer de lutter contre le vieillissement. Il y a vraiment toute une question identitaire et qui peut, là, toucher le transhumanisme, puisque dans ces mouvements identitaires, il y a des gens qui vont revendiquer le droit de pouvoir modifier leur propre corps, de pouvoir avoir toutes sortes de pratiques, mais c'est un processus plus large. C'est un processus identitaire plus large qui touche l'ensemble de la population. Là où je voudrais vous montrer justement à quel point voir le transhumanisme comme l'autre, comme quelque chose de lointain ou d'extérieur ou de à critiquer évidemment, mais ça peut nous faire oublier des enjeux beaucoup plus sensibles et beaucoup plus profonds et plus troublants aussi, parce qu'on peut pas y répondre aussi facilement. Une des conséquences à la fois de la bioéconomie et de cette biocitoyenneté, c'est l'apparition d'une conception du corps comme capital. Hein, comme son capital personnel. Il y a L'Oréal qui dit « parce que je vaux bien ». Je le vaux bien, c'est vraiment déjà cette idée d'investir dans son corps, dans sa beauté, parce que pour être une femme, il faut pouvoir avoir accès justement à un corps amélioré. La notion du corps comme capital, elle est intimement liée à Ernest Baker, qui est le prix Nobel, hein, prix Nobel d'économie en 1992, à qui on doit la notion de capital humain. On avait l'impression en 1992 que cette notion de capital humain était une amélioration, hein, une humanisation du capitalisme. À mon humble avis, c'est plutôt l'entrée du capitalisme dans toutes les couches de la vie humaine, notamment justement le corps. Parce que dans cette notion de capital humain, il y a toute l'éducation, hein, donc la personne, ce qu'elle a comme éducation, ce qu'elle peut vendre sur le marché, mais le corps entre dans cette définition-là. Et de plus en plus, dans le contexte de la biocitoyenneté, le corps est vu comme un capital dans lequel il faut investir. Hein, si vous regardez les sites Internet, si vous regardez l'accès et la demande d'accès à des soins de plus en plus en amont, c'est-à-dire de la prévention, mais aussi des soins, on entre vraiment dans cette logique de corps capital. Là, je vais mettre de côté tout ce qui est de l'ordre de l'exploitation de l'autre dans cette bioéconomie, donc tout ce qui est de l'ordre des essais cliniques faits dans les pays, en Inde, en Chine, tout ce qui est de l'ordre de l'exploitation de l'autre à travers les revendications pour les mères porteuses et tout ça. Je vais entrer seulement sur le corps capital du point de vue de l'individu néolibéral contemporain. Deux formes. Une forme qui est, bon, là, pour l'instant, en France, là, c'est vrai que vous n'y êtes pas, mais pas pour longtemps, j'en suis convaincue, surtout avec le développement de la médecine régénératrice. Partout, en tout cas en Occident, notamment au Canada, on a une banque publique pour 10 banques privées. Il y a la quête des cellules souches qui est liée justement aux technologies de reproduction, avec la recherche sur les embryons, qui nous ont fait entrer dans l'ère de la médecine régénératrice. Et parmi les tissus les plus importants, il y a les cellules souches de sang de cordon, qui sont déjà utilisées dans le traitement de la leucémie. Et on a vu apparaître au tournant des années 2000 un commerce où on vend aux femmes, aux couples, la potentialité de pouvoir justement congeler son sang de cordon. Et ça, c'est vraiment, il y a plein de Français qui vont là en Espagne, qui vont en Belgique, qui vont en Suisse, congeler leur sang de cordon avec l'idée justement qu'une fois qu'on aura trouvé, on est un peu dans la cryonie, mais de façon plus directe. Et donc, plus tard, on pourra utiliser ce sang de cordon pour guérir des maladies. C'est la même chose ici. Ça, c'est des publicités américaines. Ça, c'est une publicité canadienne. Hein, c'est présenté comme une bioassurance, donc la capitalisation sur les propres produits biologiques pour soi-même. Et les Américains qui sont toujours plus brillants, ben des cellules souches, on en trouve partout, surtout dans les tissus reproductifs. C'est pas une très grande découverte scientifique, hein, ça, que la reproduction engendre des potentialités de reproduction. Mais justement, aux États-Unis, on offre aux femmes professionnelles de pouvoir congeler leur sang menstruel qui a des potentialités en termes de cellules souches. Bon, je vais pas trop m'attarder là-dessus. C'est juste un élément. Donc, l'idée de capitaliser sur son propre corps qui est de plus en plus présente. Et d'ailleurs, les femmes enceintes au Québec, en Suisse, quand elles vont dans le cabinet du médecin, elles reçoivent les brochures pour congeler ce sang de cordon. Deuxième phénomène plus large, plus triste aussi, c'est le phénomène du tourisme médical auquel les Français participent de façon très active. Donc, l'idée, justement, on devient un bioconsommateur et de plus en plus, ben, les services de santé un peu plus coûteux, on va aller dans des pays où on offre des soins dentaires. Ça peut aller des soins dentaires à la greffe d'organes. Bon, les soins dentaires, on peut comprendre parce que les gens sont moins bien payés, donc on va dans les pays où on a quand même des infrastructures intéressantes, mais avec des gens qui sont moins payés, donc on est dans une logique pure de capitalisme de base. Pour ce qui est de la greffe d'organes, ben évidemment, s'il y a plus de reins en Inde et au Brésil, c'est pas parce qu'il y a plus de gens, hein, c'est vraiment parce qu'on est dans une logique du marché du rein. Donc là, c'est toute la question d'éthique que ça soulève. Mais ce tourisme médical devient vraiment important. Et surtout dans les législations nationales, par exemple, je sais qu'au Québec, il y a beaucoup de gens qui se rendent en Allemagne pour une espèce de traitement pour le cancer. J'ai perdu une amie dernièrement. Donc, pour le cancer du foie. Et donc, ça, c'est vraiment important parce que les gens sont malades, hein, vont payer pour avoir accès à ces thérapies. Un phénomène qu'on voit apparaître de plus en plus, c'est celui du tourisme médical. Et là, c'est le tourisme, justement, high-tech. Hein, donc, c'est les gens malades, riches, des sociétés occidentales qui vont, par exemple, se rendre en Inde, en Chine aussi, pour avoir accès à des traitements expérimentaux dans le domaine de la médecine régénératrice. Et donc, là, on est dans l'économie de la promesse qui, évidemment, exploite la souffrance, ben là, c'est des plus riches de l'Occident, mais c'est une espèce de retournement. Et donc, ça, c'est vraiment des phénomènes très importants. Et encore plus près de nous, et là, je voudrais m'arrêter pour comprendre qu'est-ce que ça signifie. Le modèle de la médecine translationnelle, c'est le modèle de la nanomédecine, de la médecine régénératrice et surtout de la médecine personnalisée. Et puis, je dirais, de la recherche, de plus en plus, on tend à vouloir faire entrer le malade très, très près de la clinique. Et de plus en plus, une grande partie des patients en cancérologie en France, au Canada, sont sur ce qu'on appelle des essais cliniques. Et on entre dans une culture de valorisation de l'expérimentation médicale sur soi. Pas transhumain, là. J'ai le cancer, ben je vais participer à une étude parce que ça donne un sens à mon cancer, parce que je participe à la science. Et on est dans une logique, je le rappelle, d'innovation, de capitalisme, de privatisation. Donc, ça soulève des questions éthiques fondamentales et vraiment très, très, très cruciales. On est vraiment dans une revendication au droit à l'essai. Ce mouvement de revendication au droit à l'essai est né dans les années 80 par les personnes sidétiques en Californie qui avaient rien, hein, qui avaient pas de remède. On est dans des communautés homosexuelles, donc très scolarisées, avec une forte croyance à la science et qui vont revendiquer de pouvoir expérimenter sur eux. Et ce mouvement-là est en train de devenir très important. Et en France, il y a Philippe Amiel qui est sociologue, qui travaille sur ces questions-là et qui montre à quel point le mouvement de revendication du droit à l'essai tend à voir l'État comme paternaliste et que finalement, il y a une valorisation à l'œuvre de l'expérimentation, il y a une culture de l'expérimentation née à même notre recherche biomédicale, je dirais, ordinaire, détoudée. Et ça soulève d'énormes enjeux éthiques, d'énormes enjeux sociétaux. Parce que c'est beaucoup de gens, là. C'est beaucoup, beaucoup de gens. Je veux juste terminer sur ce que moi, je vois à l'œuvre. C'est un retournement complet de Nuremberg. Vous savez, après la Deuxième Guerre mondiale, on a mis en place des protocoles de recherche. On a voulu, justement, séparer absolument la clinique de la recherche. Avec cette idée, justement, de protéger les populations et que la dignité humaine fait en sorte qu'on n'a pas à être soi-même un cobaye. Et cette culture, hein, qui était liée aussi avec la reconnaissance du droit à la santé, qu'on a vu tout à l'heure avec l'OMS, tend à s'effacer. Et aujourd'hui, c'est la population elle-même prise dans cette économie de la promesse qui revendique le droit à l'essai. Et qui de plus en plus, hein, si vous êtes malade, il y a des bonnes chances, on va vous proposer un traitement expérimental. Puis dans cette logique du corps capital, bon, on va vouloir y participer. C'est très, très complexe comme phénomène. Et d'ailleurs, je voudrais terminer là-dessus. On dit toujours qu'on est dans une société qui a peur de, qui tend à éviter toute souffrance physique. Ben, au contraire, je vous dirais que dans cette culture de l'essai, dans cette culture biomédicale, dans cette bio-citoyenneté, il y a une valorisation de la souffrance au nom de la science. Regardez qu'est-ce qu'on dit sur les personnes qui ont le cancer. Hein. faut qu'ils se battent jusqu'au bout. Il faut se battre jusqu'au bout. C'est vraiment très valorisé d'essayer tous les traitements, d'aller jusqu'au bout de la maladie. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils sont venus en place toutes les politiques sur l'euthanasie, parce qu'il y a eu l'acharnement thérapeutique. Et la même chose, par exemple, dans un phénomène qui, lui, est un phénomène d'amélioration. En fécondation in vitro, il y a une survalorisation de la souffrance des femmes pour avoir l'enfant. Et cet enfant, elles l'ont eu avec la souffrance. Donc, il y a une espèce de plus-value du fait d'avoir mis son corps en souffrance. Donc, il y a vraiment un enjeu très profond ici d'une transformation du rapport au corps dans une logique biomédicale beaucoup plus complexe. Et évidemment, c'est pas très surprenant ensuite que le transhumanisme, qui revendique la transformation de soi, puisse avoir des appuis dans une telle société. Je vous remercie.
Écoutez Radio Zinzine, c'est l'émission Racine de Moisin, et on vient d'entendre la sociologue québécoise Céline Lafontaine qui nous faisait une conférence sur les enjeux de la bioéconomie du corps humain en rapport avec tout l'utopie transhumaniste. Voilà, Céline Lafontaine, dans cette conférence, s'inspire beaucoup de son ouvrage paru en 2014, Le corps marché, la marchandisation de la vie humaine à l'ère de la bioéconomie, un ouvrage paru aux éditions du Seuil. Voilà, Céline Lafontaine qui est enseignante à l'Université de Montréal, donc au Québec, a publié plusieurs ouvrages qui concernent justement ce complexe technico-scientifique et médical qui est la bioéconomie maintenant. Notamment en 2004, l'empire cybernétique des machines à penser à la pensée machine. En 2008, la société post-mortelle. En 2010, nanotechnologie et société, enjeux et perspectives d'entretien avec des chercheurs. Et donc en 2014, le corps marché, la marchandisation de la vie humaine à l'ère de la bioéconomie. Des ouvrages qui sont assez fouillés, très universitaires, mais très fouillés sur toutes les relations entre science, société, médecine et autres. Pour resituer peut-être un peu la parution du livre Le corps marché, au même moment où ce livre sortait en juin 2014, sortait en France un livre signé par Alexis C. Escudero, intitulé La reproduction artificielle de l'humain, paru aux éditions Le Monde à l'envers. Et à l'époque, ce livre écrit par un homme avait suscité un certain nombre de polémiques, puisqu'il manquait un petit peu de prendre mieux en compte toutes les problématiques féministes autour de ces questions, et que il était rédigé dans le style pamphlétaire et avec quelques pics à l'encontre des féministes technophiles qui revendiquent la PMA, la GPA et d'autres choses de ce genre, sans forcément avoir un regard critique sur le côté hyper technologique de cette médecine et des enjeux aussi éthiques, comme a souligné Céline Lafontaine, autour de l'exploitation du corps des femmes ailleurs, dans d'autres pays, etc. Ce livre d'Alexis Escudero avait suscité un très grand scandale. L'auteur s'était même fait insulter, l'éditeur s'était fait prendre à partie dans certains milieux, salon du livre anarchiste, etc. Et malheureusement, le livre de Céline Lafontaine, qui vient corroborer en tout point ce pamphlet d'Alexis Escudero, est passé relativement inaperçu, et c'est bien dommage. Sur le même sujet, la revue L'Inventaire, qui est publiée aux éditions La Lenteur, le numéro 7 de cette revue a publié la traduction d'un manifeste féministe, la déclaration de Comilla, un manifeste féministe contre la procréation médicalement assistée. Traduit par Mathieu Amiech et Michaela Di Carlo. Cette déclaration a été rédigée lors de la conférence internationale de Comilla au Bangladesh, donc en 1989, organisée par le réseau FINRAJ, Feminist International Networks of Resistance to Reproductive and Genetic Engineering, et également par l'ONG bangalaise UBINING, dont l'acronyme signifie en français « Recherche sur des politiques alternatives de développement ». Voilà, c'est une déclaration en une quarantaine de points. Il y a un autre texte du réseau FINRAJ ensuite. Et dans cette déclaration de Comilla, on peut lire des choses assez intéressantes. Nous, femmes venues d'Australie, d'Autriche, etc. Nous nous sommes réunis à Comilla au Bangladesh pour partager notre inquiétude à propos de l'ingénierie génétique et reproductive, à propos également de la santé des femmes, pour ceux qui regardent leur fécondité. Nous estimons qu'il est urgent de donner un coup d'arrêt aux politiques qui encouragent le développement rapide et l'application croissante de ces technologies. Donc ces technologies, il s'agit évidemment de la GPA et de la PMA, qui à l'époque n'étaient pas aussi développées que maintenant. Voilà parmi les différents points qui sont évoqués dans cette déclaration de Comilla. J'en lis juste une au passage. L'ingénierie génétique et de la reproduction est le produit d'une science dont le point de départ est l'assimilation du monde à une machine. De même qu'une machine peut être démontée en pièces détachées que l'on analyse et réassemble ensuite, les êtres vivants sont considérés comme un ensemble de composants que l'on peut examiner séparément. Les aspects de la nature qui ne peuvent être mesurés ou quantifiés sont vus comme relevant de la subjectivité et jugés sans valeur. Par voie de conséquence, ils sont écartés. Par ignorance ou par mépris des interrelations complexes qui régissent la vie, les scientifiques collaborent avec l'industrie et le grand capital en pensant qu'ils possèdent enfin le pouvoir de créer et assembler plantes, animaux et autres formes de vie, bientôt peut-être même les êtres humains. Nous nous opposons à cette domination patriarcale, industrielle, marchande et raciste sur la vie. Donc voilà, je vous invite à lire cette déclaration de Comilla, qui est publié par la revue L'Inventaire, le numéro 7, que vous pouvez trouver en librairie, c'est paru aux éditions La Lenteur en ce début d'année. Voilà, pour terminer, peut-être on peut signaler aussi que cette année 2018, c'est l'année de révision des lois de bioéthique, révision programmée dans la loi votée par les parlementaires français depuis des années. Il y a eu 6 mois de débats et de consultations du public. Un rapport a été remis en juin 2018 sur cette consultation et les lois de bioéthique seront révisées à la fin de l'année. Et comme le souligné Céline Lafontaine, bah voilà, le président Macron est lui tout à fait en faveur de la recherche scientifique et des start-up. Sans surprise, on peut penser que cette révision des lois de bioéthique s'inscrira dans cette bioéconomie dont Céline Lafontaine nous a fait un exposé assez court cette fois-ci. J'ai une autre conférence que je diffuserai dans bientôt sur le même sujet, où elle entre beaucoup plus dans les détails. Mais voilà, cette émission se termine et je vous dis à la prochaine.
Racines de moins 1, une émission de critique des sciences, des technologies et de la société industrielle, présentée par Radio Zinzine.